cet après-midi, une présentation sur théorie de l'évolution et surtout comment la vision qu'on en a a un impact sur notre regard vis-à-vis des animaux, que ce soit des animaux humains ou des animaux non humains. Puisque donc évidemment la place de chaque individu dans l'évolution ne dit absolument rien sur son statut moral, c'est-à-dire que le fait de savoir que les chimpanzés et les humains ont un ancêtre commun il n'y a pas si longtemps que ça dans l'échelle de temps dans laquelle on parle par rapport à la sardine avec laquelle on partage un ancêtre commun beaucoup plus lointain, ça veut en soi absolument rien dire sur le statut moral de la sardine, des humains et des chimpanzés. En revanche, la façon dont on perçoit la place des individus, elle en dit long sur nos représentations. Voilà. De fait, quand on parle de la théorie de l'évolution, c'est présenté comme une façon un peu rationnelle, scientifique, de parler des animaux. Mais très souvent, les représentations qu'on en a sont erronées. Dans les discussions, par exemple, autour du végétarisme, on entend souvent de la part des végétaristes, par exemple, dire « Ah oui, mais l'homme, il descend d'un ancêtre qui était végétarien, son organisme, il n'est pas encore assez adapté pour manger de la viande, ce qui est un argument qui n'a aucune valeur. » Et ce à quoi les carnistes répondent « Ah oui, mais c'est bien à l'époque où on a mangé de la viande, qu'on a eu plus de protéines, que le cerveau s'est développé », argument qui n'a aucune valeur non plus. Mais bref, qui sont utilisés quand même. Quand on parle des animaux, on en arrive souvent à parler de la théorie de l'évolution, dont on fait un bloc, la théorie de l'évolution, alors que souvent on parle de l'évolution, donc d'un fait et pas d'une théorie. Par exemple, dans des listes de végétariens célèbres que publient certaines associations pro-végétariennes, on voit souvent citer Darwin, alors ce qui est une erreur absolue, puisque Darwin mangeait de la viande, et surtout Darwin a fait beaucoup de prélèvements sur le milieu, c'est-à-dire qu'il tirait sur un oiseau pour voir de plus près comment il était fait, qu'il a conservé des bocaux dans l'alcool pour pouvoir garder des spécimens. Mais c'est une erreur qui est compréhensible dans la mesure où Darwin dit que l'homme est un animal finalement qui n'a pas une place particulière dans l'évolution. On a plutôt envie de penser qu'il parle pour nous et on aurait envie qu'il soit végétarien, même si ce n'était pas le cas. Et inversement, on a quelqu'un par exemple comme Dominique Lestel. Donc Dominique Lestel qui a écrit un livre qui s'appelle « Apologie du carnivore », donc dans lequel il défend haut et fort son droit à manger de la viande en homme libre contre les dictats des végétariens. Et donc Dominique Lestel utilise toute une foule d'arguments pour discréditer le végétarisme éthique. Et il en utilise tout un panel, dont deux arguments qui sont en lien avec la théorie de l'évolution. Donc son premier argument, il reprend l'argument naturaliste de base de dire « Ah ben la nature, elle a fait de moi un omnivore, donc je dois rester un omnivore. » Et en fait, il garde le même argument, sauf qu'il dit « Ah mais je ne crois pas aux ordres naturels, moi je parle de la théorie de l'évolution. C'est l'évolution a fait de moi un omnivore, donc j'accepte mon animalité, j'accepte d'être un omnivore, alors que vous les végétariens, vous n'acceptez pas votre part animale. » en refusant de manger les animaux comme l'évolution vous a fait. Voilà. On peut noter d'ailleurs que si l'homme devenait végétarien, ça s'intégrerait parfaitement, ça serait dans son évolution. On a un exemple, par exemple, qui est le panda. Le panda, ses ancêtres étaient carnassiers, donc ce qu'on fait de plus violent en termes de prédateurs. C'est-à-dire qu'ils tuent leur proie sans même prendre la peine de... Enfin, qu'ils mangent leur proie sans même prendre la peine de les tuer. Ils se nourrissent sur des animaux vivants et les animaux finissent par mourir quand il leur manque vraiment un gros morceau. Et bien, les pandas, aujourd'hui, sont devenus quasiment végétariens. A priori, non pas en s'adaptant à une pénurie, mais plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont migré sur des endroits où il y avait des grandes étendues de bambou, c'était beaucoup plus facile à ramasser que les animaux après lesquels il fallait courir. Et progressivement, le panda, qui a des ancêtres carnassiers à très peu de générations, aujourd'hui est quasiment herbivore. Voilà. Et le deuxième argument de Dominique Lestel était de dire que la prédation est un moteur majeur de l'évolution. Donc la prédation contribue à la biodiversité. Ce qui signifie que quand Dominique Lestel va acheter au supermarché du thon qui a été pêché avec des filets dérivants, il contribue à la biodiversité des océans, alors que nous, quand on mange du tofu, on réduit la biodiversité. Donc, pour faire cet exposé, en fait, dans une toute première partie, très 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 rapide, parce qu'on n'est pas aux estivales pour faire de l'histoire des sciences, mais pour parler d'éthique et de politique, je vais quand même présenter très rapidement l'histoire de ce qui s'est dit, de comment ont été pensées les théories de l'évolution, simplement pour qu'on sache tous de quoi on parle pour la suite. Et ensuite, donc, j'expliquerai ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution, donc de la théorie darwinienne, et en gardant toujours en fil rouge ce que ça implique concrètement pour les individus, ce que ça implique éthiquement et politiquement. Voilà, puisqu'il ne s'agit pas d'un cours de sciences nat, mais bien d'un enjeu politique. Et ensuite, nous verrons comment différentes œuvres présente l'évolution soit de façon complètement erronée, soit d'une façon tendancieuse, dans lequel il y a des sous-entendus politiques tout à fait discutables et qu'on ne trouve pas chez Darwin. Alors, pour ce qu'on sait des théories de l'évolution, comment ça s'est construit dans le temps. Déjà, il faut savoir que l'humanité, dès très très longtemps, elle avait une compréhension partielle des mécanismes. Peut-être que, avant d'aller plus loin, j'aurais dû tout simplement expliquer que, pour l'instant, on ne va pas aller plus loin, que la théorie de l'évolution, ça signifie en fait que les espèces, pour l'instant, on va juste s'en tenir à ça avant d'approfondir plus loin, découlent les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vie, en s'adaptant à son milieu, en fonction des circonstances, tout ça, elle peut donner des descendants à plusieurs espèces différentes, et que les espèces se transforment. Les espèces qui vivent actuellement sont les descendantes d'espèces, les formes de vie qui existent actuellement sont les descendantes d'espèces de vie qui existaient il y a bien longtemps. Donc l'humain, clairement, les humains avaient une compréhension partielle de certains des mécanismes depuis très longtemps, en tout cas de la notion d'hérédité, puisqu'on le voit par exemple par la sélection humaine volontaire au sein de l'élevage. C'est-à-dire que pendant que les élites disent « Ah oui, mais les espèces, c'est quelque chose de tout à fait fixe, ça ne change pas », les éleveurs, eux, ils ont été capables de sélectionner les individus pour faire un type de vache qui fait beaucoup de lait mais qui ne fait pas de la bonne viande, un autre type de vache qui fait de la bonne viande, un type de vache qui est capable de résister au froid pour vivre dans la montagne. Donc, de fait, ils comprenaient une part des mécanismes. Par contre, ça n'a jamais été théorisé aussi bien qu'ensuite avec Darwin. Donc, pendant l'Antiquité, donc là, je me tiens que à l'Antiquité occidentale, puisque comme j'avais dit, l'histoire, c'est d'aller vraiment vite, on n'est pas là pour faire de l'histoire des sciences, c'est vraiment juste une petite introduction. Il y avait déjà des penseurs qui pensaient que les espèces évoluaient, découlaient les unes des autres, mais ce n'est pas ce qui a été le plus retenu pour la suite. Le penseur qu'on a le plus retenu pour la suite, c'est Platon. Platon qui est fixiste, ce qu'on appelle un fixiste, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'évolution. Et même Platon qui est essentialiste. C'est-à-dire que pour Platon, il existe dans l'absolu, dans le monde des idées, un concept abstrait de cheval. Donc en fait, chaque cheval individuellement n'est qu'un représentant. Mais le modèle abstrait de cheval, il existe de toute éternité et il ne peut pas changer. et Platon. Donc c'est sa pensée, sa vision du truc qui a inspiré la pensée dominante pendant tout le Moyen-Âge et toute la Renaissance, enfin jusqu'au 18e, 19e siècle. Platon qui a été très bien vu par l'idéologie dominante, en fait, puisque c'est souvent un philosophe qu'on qualifie de pré-chrétien. C'est-à-dire que même si Platon ne croyait pas, enfin, n'était pas du tout chrétien pour un sou, quand il parle des dieux, c'est au pluriel, mais il a l'idée donc des essences, qui laisse entrevoir qui est tout à fait compatible avec le concept d'une création divine. Dieu a une idée et ensuite il l'a fait exister. Et il croit que l'âme habite le corps. Donc on a une âme éternelle qui habite le corps. Donc ça, d'une certaine manière, en répandant ces idées-là, il a créé le terrain favorable à l'expansion du christianisme. Si les chrétiens étaient arrivés sur une terre où les gens pensaient qu'ils étaient des animaux et que leur pensée, c'était le fruit de connexion neuronale qui se passait dans leur cerveau, quand les gens avaient dit « je viens sauver votre âme », ça leur aurait pas parlé. Mais comme ils étaient déjà platoniciens, ça leur a parlé. Oui, c'est un raccourci. On avait dit qu'on n'était pas là pour faire de l'histoire des sciences et qu'on torchait ça vite fait. Voilà. Donc, pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance, tout ça, on reste un peu sur cette idée-là. Quand il y a des représentations des différentes formes de vie, les bestiaires ou les herbiers, il n'y a pas d'idée d'évolution. Les livres de biologie de l'époque, par exemple, ça peut être poisson des côtes bretonnes, plantes sauvages de Bourgogne, on a des listes, mais aucun rapport entre les différentes formes. Voilà, on fait un petit bond dans le temps, puisqu'on va vite, pour arriver au XVIIIe siècle, en fait, avec Carl von Linné. Carl von Linné, qui est toujours un fixiste, il ne croit pas du tout à l'évolution des différentes formes de vie. Il s'engueule d'ailleurs avec Buffon, qui lui était favorable, croyant à une certaine forme d'évolution, mais Buffon, on ne va pas parler de lui. Carl von Linné, qui, malgré tout, tout en étant fixiste, il a fait ce qu'on appelle du coup la classification linéenne. La classification linéenne, en fait, c'est ce qui permet de répartir toutes les formes de vie selon un schéma, en fait, combien ça a de pattes, est-ce que ça a des plumes ou des poils, est-ce que ça fait la gestation à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps, voilà, et qui permettait d'avoir une espèce d'arbre où, à la fin, on aurait toutes les formes de vie qui existent. Mais pour lui, toujours dans une idée fixiste. Simplement, le fait d'avoir fait cet arbre et de voir qu'il y avait des similitudes entre les différentes formes de vie, ça a ouvert le terrain à se dire mais en fait, qu'il y ait des similitudes aussi flagrantes, est-ce que ça ne peut pas signifier un ancêtre commun? Voilà. Et la classification linéenne, aujourd'hui, c'est toujours celle qui est globalement utilisée pour classer les individus, mais revue justement avec la théorie de l'évolution, dans la mesure où aujourd'hui on cherche vraiment à en faire une espèce d'arbre généalogique des formes d'individus. Donc elle a été revisitée. Un exemple de ça, par exemple, ce sont les orvets. Donc les orvets, souvent on pense que ce sont des petits serpents. Donc d'après la classification linéenne, comme la différence entre un lézard ou un serpent, c'est l'absence de pattes, comme c'est un petit truc, comme voilà, ça ressemble à un serpent, ça n'a pas de pattes, Linné les avait classés parmi les serpents, et on s'est rendu compte ensuite en fait, que les orvets, dans leur histoire, avaient eu des pattes et ont perdu des pattes au cours de l'évolution. Donc d'après une classification linéenne, mais revisitée par le darwinisme, on dit que l'orvet est un lézard sans pattes. Voilà. Ce qui pour Linné n'aurait pas voulu dire grand-chose. Carl von Linné, aussi, on peut aussi lui reconnaître qu'il avait classé l'humain dans les primates. Quand même, même si c'était... Voilà. Donc, à partir de là, au cours du 18e, 19e siècle, l'idée de l'évolution commence à germer. On va vraiment très très vite, mais c'était dit comme ça. Mais ces mécanismes sont encore mal compris. Par exemple, une personnalité qui est assez connue, Jean-Baptiste Lamarck, par exemple, avait bien compris que les espèces découlaient les unes des autres, que les espèces qui vivaient aujourd'hui étaient les descendantes des espèces qui existaient il y a 200 000 ans. Mais par contre, lui, il croyait à ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. Donc l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de la girafe. Donc, la girafe qui est une sorte d'antilope, mais qui, d'après Lamarck, il pensait en fait que à une période où l'herbe avait manqué à hauteur normale, elle avait dû étirer son cou pour attraper les feuilles les plus hautes, et que après, quand elle s'était reproduite, du coup, ben, sa descendance avait eu un cou un peu plus long, et la descendance ayant elle-même étiré son cou, on arrivait comme ça à un étirement du cou. Voilà. C'est au fil des millénaires. Ce que Darwin en fait expliquera qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche principalement, enfin ça marche même exclusivement, non pas sur la transmission des caractères acquis, mais sur la transmission des caractères innés. C'est-à-dire que les individus ont des gènes. Oui, bon, on va passer à ça. Sur Darwin, en fait, voilà, la transmission des caractères innés, c'est-à-dire que les individus portent des gènes, que certains gènes qui sont plutôt favorables ont tendance à se répandre, et les gènes qui sont défavorables ont tendance à ne pas se répandre. Darwin, en fait, publie L'origine des espèces en 1859, qui est une révolution dans le monde scientifique biologique. C'est un travail qu'il menait déjà depuis très 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 longtemps. Darwin, il croit en cette théorie-là depuis de très nombreuses années, voire des décennies avant de le publier. Ça mûrit lentement dans son esprit, et il le publie en 1859, notamment pour entrer dans une polémique où il y avait un autre biologiste qui s'appelait Alfred Wallace, qui avait fait quelques conférences et quelques petites publications dans lesquelles il défendait la même thèse, mais sans avoir fait un travail de fond aussi approfondi que Darwin. Et Darwin donc publie L'origine des espèces dans ce cadre-là. Voilà. Donc, nous allons maintenant expliquer les grands principes de la théorie darwinienne, et donc toujours en faisant en gardant au fil rouge ce que ça implique concrètement pour les individus. Donc la théorie darwinienne, qu'il faut savoir, qui depuis, elle a été corrigée sur certains petits points de détail où il avait pu se tromper, comme ça arrive à tous les scientifiques, et elle a été approfondie par les découvertes ultérieures, mais elle n'a jamais été sérieusement remise en cause dans ses fondements, sinon par des personnes qui idéologiquement avaient envie de la nier. Voilà, on en parlera un peu après. Donc, les grands principes, globalement, c'est que toutes les formes de vie sur Terre découlent, en fait, d'un ancêtre commun, qu'on appelle LUCA, purement théorique, qui veut dire Last Universal Common Ancestor, c'est un terme qui a été créé après Darwin, et donc qui voit le jour, enfin, qui apparaît sur Terre, il y a environ 3,8 milliards d'années. Voilà. Et qui s'est complexifié en être plus pluricellulaire, puis progressivement dans toutes les plantes et tous les animaux que nous connaissons. Le fonctionnement de l'évolution normale, celui que surtout qu'on va le plus traiter, qui est le principal, là où l'évolution est la plus active, c'est évidemment pour les êtres complexes, avec une reproduction sexuée, que ce soit végétale ou animale. C'est-à-dire qu'on a une cellule reproductrice mâle et une cellule reproductrice femelle, qui mélange les ADN de deux individus pour créer un nouvel être, donc qui porte une partie aléatoire des gènes du géniteur, une partie aléatoire des gènes de la génitrice, et une mutation qu'on pourrait dire aléatoire, pour faire simple. En plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas... qu'on a une partie des deux gènes qui se mélangent, mais on a aussi une mutation du nouveau. Il y a du nouveau qui peut apparaître. Dans le cas de reproduction qui se passe autrement, il n'y a pas d'évolution. Je pense par exemple à une fraise qui peut se reproduire par ses graines. Donc dans ce cas-là, les graines, ben, ça a été elles sont issues du mélange de deux plantes. Donc là, il y a évolution. Par contre, quand elle se reproduit par ses stélons, c'est-à-dire elle envoie une espèce de longue tige qui va prendre racine plus loin, et la tige sèche et ça fait un nouvel individu. En fait, c'est un nouvel individu qui est génétiquement identique au plan mère, donc il n'y a pas d'évolution dans ce cas-là. Donc, ces mutations aléatoires, les gènes se transmettant, s'ils sont défavorables à leur propre diffusion, ils vont rapidement être éliminés, alors que s'ils sont favorables, ils ont une chance de se répandre. Et on parle bien en fonction du milieu. Comme les milieux ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes gènes qui vont être favorisés dans un milieu que dans un autre. Et c'est ce qui explique les différenciations. Par exemple, des ours qui pouvaient avoir des gènes qui donnent plutôt une fourrure épaisse et blanche, ben, c'était plutôt un avantage là où il faisait froid. C'est pour ça que ces gènes-là se sont répandus dans ces milieux-là. Et alors qu'une fourrure moins épaisse et de couleur plus grise ou marron, c'était un avantage là où il n'y avait pas de neige. Et c'est pour ça, voilà comment on explique la différenciation entre les ours bruns et les ours blancs, par exemple. Et donc, comme on parle sur des échelles de temps qui sont très 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 longues, le temps efface les improbabilités statistiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, on joue tous à un jeu, on lance 100 dés, et on regarde, c'est celui qui a fait le plus à gagner, celui qui a fait le moins a perdu. C'est un jeu un peu idiot. Mais on distribue mal les dés, et il y en a qui jouent avec 101 dés, et d'autres avec 99 dés. Bon, sur une partie, on peut dire que à peu près tout le monde a ses chances. Par contre, si on se dit on fait la partie en 1 million de manches, il est quasiment évident que le gagnant sera parmi ceux qui jouent avec 101 dés. Après, on peut aussi jouer avec 101 dés et perdre, puisque la sélection est très très rude. Puisque pour que les gènes perdurent, il y a énormément de conditions. Il faut échapper aux prédateurs, aux maladies, au climat, aux accidents, trouver de la nourriture et se reproduire. Là, on parle bien pour que le gène perdure. Évidemment, les gènes qui perdurent, ce sont ceux qui avaient plus de chances de perdurer. Ça ne veut pas forcément dire que... ça n'a rien à voir avec l'intérêt individuel. Par exemple, le fait de ressentir la douleur, c'est un avantage évolutif qui permet de se mettre à l'abri. Il y a des moments où on ne peut pas se mettre à l'abri, on se fait torturer, on aurait plutôt intérêt à ne pas ressentir la douleur. Les gènes qui perdurent sont les gènes qui avaient les gènes qui perdurent sont ceux qui ont été transmis, et ce sont généralement ceux qui avaient le plus de chances de se transmettre. C'est un état de fait mathématique, mais qui veut absolument rien dire par rapport aux intérêts individuels. Je pense que très souvent, ce qui est un avantage évolutif peut être un désavantage pour l'individu. On l'a vu avec le cas de la souffrance. De même, par exemple, l'instinct de survie. Enfin, par exemple, il y a des gens qui ont décidé de se suicider. Il n'empêche qu'ils vont plonger avec un gros poids autour du pied et immédiatement ils vont essayer de se dégager. Pourtant, ils avaient bien décidé, mais c'est pas pour ça que ça a déconnecté leur instinct de survie. On peut bien parler d'instinct, mais pour moi, ça peut très souvent jouer contre les intérêts des individus. Je pense aussi à beaucoup d'animaux, qu'ils soient humains ou non humains. Qui peuvent ressentir le besoin de se reproduire. Ce n'est pas forcément systématiquement, après avoir calculé quel impact ça aurait sur leur propre vie, est-ce que l'enfant lui-même avait intérêt à naître, est-ce que pour l'intérêt général c'était une bonne chose. Simplement, le fait de ressentir le besoin de se reproduire était un avantage évolutif et ça s'est répandu parmi les populations. Donc quand on disait que la sélection était très très rude et du coup laissait peu de place au hasard, par exemple, dans l'origine des espèces, par exemple, Darwin calcule que même en prenant des estimations basses, il dit qu'avec un couple d'éléphants, si tous les descendants pouvaient parvenir à l'âge adulte, se reproduire le nombre de fois qu'il est normal pour un éléphant de se reproduire et mourir de sa mort naturelle à la fin de sa vie, il compte qu'en 500 ans, à partir d'un couple d'éléphants, on arriverait à 15 millions d'individus, c'est-à-dire une multiplication de 7,5 millions de la population. C'est-à-dire, si on met ça au carré, ça signifie qu'en 1000 ans, la population des éléphants aurait dû être multipliée par 50 000 milliards. Or, pour un éléphant qui existait à l'an 1000, nous n'avons pas aujourd'hui 50 000 milliards d'individus. Il y a donc une très infime part des gènes potentiels qui se sont transmis. Et là, en plus, on parle de l'éléphant qui a une stratégie de reproduction. Alors, je parle de stratégie de reproduction, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une volonté derrière. Ça veut simplement dire qu'il faut que ça fonctionne. Qui consiste plutôt à faire des enfants assez tard, d'avoir une gestation assez longue et de bien protéger les petits. Alors imaginez ce qui peut en être pour les souris qui, une fois adultes, elles sont adultes à 6 semaines, et à partir de là, elles peuvent avoir une gestation par mois de 6 petits. Donc imaginez, la population des souris devrait être multipliée par 10 tous les mois. Or, la population mondiale de souris n'est pas multipliée par 10 tous les mois. Il y en a donc énormément qui meurent. Ou qui n'ont pas vu le jour. Dans le cas des éléphants, ce sont beaucoup qui n'ont pas vu le jour. Là-dedans, oui, la sélection qui est très rude, pour les raisons qu'on a dit, là, échapper aux prédateurs, aux maladies, au climat, aux accidents, trouver de la nourriture et de se reproduire, ça ne signifie pas nécessairement des morts, mais ça en signifie aussi énormément, énormément. Par exemple, pour les escargots, en captivité, un escargot, ça vit 15 à 20 ans. À l'état naturel, il est rarissime d'en trouver un qui a plus d'un an. Donc on voit que, pour les escargots vivent en général moins d'un 15e de ce qu'ils auraient pu vivre s'ils n'étaient pas morts de mort violente. Donc on parle bien d'un mécanisme qui fonctionne sur un jeu de massacre permanent pour les individus. Donc, comme les formes de vie découlent toutes d'une source unique qui est en changement constant, toute classification est arbitraire. Et à un moment, il faut bien mettre une limite pour pouvoir parler des choses. On peut dire à un chat, c'est plus simple dans la conversation. Mais c'est une limite qui est très floue. Alors, une petite citation de Darwin, de l'origine des espèces. Je ne discuterai pas ici des différentes définitions que l'on a données du mot espèce. Aucune de ces définitions n'a complètement satisfait tous les naturalistes. Et cependant, chacun d'eux sait vaguement ce qu'il veut dire quand il parle d'une espèce. Voilà, on est bien dans un truc, une classification arbitraire. Chaque individu a une place unique dans l'évolution. Et après, on les regroupe, parce qu'il faut bien pouvoir en parler par commodité, tout ça. Mais il faudrait se méfier. D'avoir une vision une vision bien fixe de ce que c'est qu'une espèce, voire une sous-espèce. Globalement, la définition un peu objective que les gens veulent avoir d'une espèce est basée un peu sur l'idée de reproduction. On définit une espèce, un groupe, au sein duquel certains individus peuvent se reproduire avec certains autres, pour rester très vague. Mais c'est pas figé, il n'y a pas clairement un groupe qui peut clairement se reproduire avec un autre ou qui peut pas. Il y a aussi des fois. Alors, je cherche tout. Bon, je ne l'ai pas sous les mains, c'est pas très important, juste savoir que ça existe. C'est que quand deux groupes en fait, sont au sein d'un groupe, il peut y avoir des caractères différents qui coexistent. comme il y a des chats blancs, des chats noirs, des chats à long poil et des chats à court poil. Tant qu'il y a du brassage entre les groupes, on considère que c'est une même espèce. Alors que pour parler d'espèces différentes, généralement, il a fallu qu'un groupe se sépare géographiquement d'un autre groupe pour avoir une évolution qui suit une voie différente, jusqu'à un moment où le brassage génétique serait censé ne plus être possible. Mais en fait, c'est assez compliqué, dans le sens, par exemple, où des fois, il y a des individus au sein du même groupe qui ne peuvent pas se reproduire. Enfin, il y avait déjà eu une conférence là-dessus sur les espèces n'existent pas, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais voilà, la définition que les biologistes cherchent à avoir, c'est de définir comme espèce un groupe d'individus au sein duquel certains peuvent se reproduire avec d'autres, alors qu'une sous-espèce, c'est juste constater des caractéristiques communes à un groupe, mais quand même fixe. J'ai l'impression que je m'embrouille un peu. Par exemple, pour définir les choses, on a une idée assez précise de ce que c'est que l'éléphant d'Asie et de ce que c'est que l'éléphant d'Afrique. En fait, et si on en a une idée très précise comme deux choses différentes, c'est simplement parce qu'au milieu, il y a une zone sur laquelle il n'y a pas d'éléphant. Sinon, on pourrait simplement dire les individus à l'est ont un peu tendance à être plus petits et avoir des plus petites oreilles qu'à l'ouest. Mais ça ne signifie pas d'en faire deux groupes. À partir du moment où il n'y a pas de brassage génétique, les biologistes veulent identifier les groupes de façon figée, en disant il y a ce type-là d'éléphant, il y a ce type-là d'éléphant, mais en fait c'est très flou. On constate des caractéristiques communes, ils seraient très probablement encore inter-féconds, mais simplement, comme à l'état naturel, ils ne se rencontrent pas. Par exemple, la déontologie des zoos veut qu'on ne les fait pas se reproduire entre eux, parce qu'à l'état naturel, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, mais ils pourraient aussi très bien migrer, et que les deux populations refusionnent. Donc on est quelque chose de très abstrait. De même, par exemple, qu'on dit que les chiens sont une même espèce, parce qu'un chien peut se reproduire avec un chien, mais on voit très peu de cas d'un chihuahua qui se reproduit avec un Saint-Bernard. Mais pourtant, on dit quand même que c'est la même espèce, parce que peut-être que le chihuahua va se reproduire avec le caniche qui va se reproduire, etc. Mais donc, il y a un lien, il y a un brassage génétique entre les deux, mais il est très indirect, on parle quand même de la même espèce. À l'état naturel, on a vu aussi des hybrides. Alors là, j'avais perdu l'image, mais je la retrouverai tout à l'heure, c'est pas très important. Mais par exemple, une reproduction entre un cheval et un zèbre. Normalement, à l'état naturel, ils ne sont pas censés vivre dans les mêmes milieux, ils ne sont pas censés exister à l'état naturel. Donc, déontologie des zoos, surtout, ne laissons pas de tels individus exister. Par contre, sur les races de chiens, on fait des choix volontaires de croisement, tout ça, mais sur les animaux naturels, voilà, il ne faut surtout pas se laisser reproduire une jument avec un zèbre ou un cheval avec une femelle de zèbre, je ne sais pas comment on dit. Le fait d'avoir comme ça une vision très carrée en fait de ce qu'est une espèce, ça a une implication en fait politique sur la vision dont on peut voir les choses, parce que ça les indique vraiment comme des choses qui ont rien à voir, comme s'il n'y avait pas de pont entre les deux. Par exemple. Je comprends tout à fait qu'en géopolitique, on puisse, pour simplifier le discours, dire « bon, ben là, il y a le monde arabo-musulman, là, il y a l'Europe occidentale », parce qu'à un moment, c'est utilisé comme un outil explicatif. Mais si on a vraiment l'idée que c'est vraiment des choses différentes, qui n'ont pas de pont, qu'il y a une frontière nette entre les uns et les autres, c'est une vision des choses qui va favoriser une vision un peu raciste de bloc, enfin de lutte des civilisations ou de ce genre de choses. Il y a des échanges entre les deux. À un moment, on met une délimitation qui est utilisée comme un outil, mais il faut savoir que c'est un outil artificiel, qu'on a mis la frontière quelque part et qu'on aurait pu mettre la frontière ailleurs. Voilà. Quand on avait parlé tout à l'heure des avantages et des avantages évolutifs. J'avais oublié une petite parenthèse qui me semble là avoir quand même un peu d'importance à soulever. C'est que, quand, par exemple, dans les débats sur la conscience ou la non-conscience des plantes, si on voit comment fonctionne le fait que les avantages évolutifs se répandent alors que les désavantages évolutifs ne se répandent pas, pour un individu qui n'est pas capable de réagir à une agression, ça serait un désavantage évolutif de comprendre qu'il est en train de se faire agresser. Donc c'est quelque chose qui porterait plutôt à croire que les mécanismes de l'évolution il n'y aurait absolument aucune raison que les plantes puissent ressentir quelque chose. Si par hasard une forme de conscience embryonnaire avait pu apparaître au cours de leur évolution, ça aurait été a priori rapidement évolué, ça aurait été rapidement éliminé, sauf à développer en même temps un mouvement qui permettent de réagir, mais en fonction de la conscience. Il y a des plantes qui bougent, tout à l'heure on parlait de la sensitive, mais elle n'a pas besoin d'analyser. Si elle devait être capable d'analyser ce qui la touche et de réagir de façon différente en conséquence, on pourrait éventuellement envisager la chose, mais ça n'a jamais été observé. Et surtout, la matière dont sont constituées les plantes ne permet pas la transmission des systèmes électriques comme un système nerveux pour avoir une information rapide. Donc voilà. Et on peut quand même dire qu'il y a des mécanismes qui fonctionnent, ce qu'on pourrait appeler des lois naturelles, mais à condition d'être bien conscient que en fait c'est une combinaison de lois mathématiques, physiques et chimiques. C'est pas des lois naturelles par une volonté. Donc on va voir là tout bientôt en fait comment souvent les représentations de la théorie de l'évolution sont présentées de façon erronée ou tendancieuse pour des motifs idéologiques. Avant, on va faire encore une autre parenthèse un peu de science-fiction. Concernant, en fait, du coup, la place qu'on attribue souvent à l'homme comme sommet de l'évolution. Une représentation très courante, mais je ne sais pas du coup si je... Non, en fait, on le dira après. Donc, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Alors, quelque chose qui est très important dans la théorie de l'évolution, c'est que la nature n'a pas de plan. Comme on a vu, tout fonctionnait par hasard. Darwin ne fait pas intervenir l'hypothèse de Dieu ou d'un de ses avatars, la nature, l'ordre, voilà. Donc, il y a des gènes qui se répandent. Quand ils sont avantageux, ils se répandent plus. Quand ils sont désavantageux, ils se répandent moins. Sur le long terme, ça signifie que les formes de vie semblent s'adapter à leur milieu, mais il n'y a pas, comme on a ce matin, on a entendu quelqu'un par exemple dire oui, mais les insectes qui changent de couleur pour être d'une génération à l'autre pour être dans les mêmes couleurs que leur environnement, c'est bien la preuve qu'il y a eu une intelligence de la nature. Et bien non, il n'y a pas d'intelligence de la nature. Il y a des insectes qui ont changé de couleur par hasard et ils étaient plus visibles et ils se sont fait bouffer. Il y en a qui ont changé de couleur par hasard, ils étaient moins visibles, ils se sont fait bouffer, mais un peu moins que les autres, et du coup, ce sont ceux qui avaient des teintes qui correspondaient à leur milieu qui ont perduré. Bien. Donc, l'idée que la nature n'a pas de plan, elle est rarement niée en bloc. Quoique, on va quand même citer 2-3 exemples. Par exemple, dans Réveillez-vous, donc le magazine des témoins de Jéhovah, ils ont une rubrique qui s'appelle Hasard ou conception, donc en fait qui est un peu leur rubrique animaux. Donc ils vont nous présenter un animal, enfin comme on trouve dans beaucoup de magazines, et Et généralement, ça se termine par la baleine bleue est vraiment bien adaptée à son milieu. Alors, hasard ou conception? Voilà. C'est l'argument par le fait, la baleine bleue est tellement bien adaptée qu'il ne peut pas y avoir une si belle horloge sans horloger. On retrouve le vieux classique de la philosophie déiste. De même, par exemple, le Vatican, aujourd'hui, est sur des positions. Donc Jean-Paul II s'est beaucoup prononcé sur l'évolution, ses successeurs un peu moins, où maintenant ils disent nous reconnaissons l'évolution pour ce qui est du corps, mais il ne faut pas en tirer de conclusion philosophique, puisque c'est quand même Dieu qui donne l'âme. Alors que on sait que dans la théorie de l'évolution, que la conscience est apparue par stades successifs. À partir d'animaux très peu sentients, puis d'animaux plus sentients, et que ce sont des gènes qui font penser, qui font des connexions neuronales. Là, la dernière trouvaille des déistes, c'est l'intelligence design, donc en plus dans les initiales, ça fait ID, une idée. Ils reconnaissent l'évolution, mais ils prétendent que chaque mutation aléatoire, en fait, c'est la main de Dieu qui les a fait. Voilà, donc il y a bien une évolution, mais c'est quand même Dieu qui y touche. Donc voilà, pour ce qui est de... Il y a encore des forces aujourd'hui qui cherchent à nier ouvertement que la nature n'a pas de plan. En bloc, ça existe toujours, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont affirmer que la nature n'a pas de plan, mais ils vont faire des démonstrations dans lesquelles derrière ils vont dire des choses qui n'ont aucun sens s'ils n'ont pas de plan. Par exemple, dans beaucoup de magazines pour enfants, il y a une page animaux où on va présenter un animal, comment il fonctionne, tout ça, et il y a toujours cette idée de pour. Par exemple, le zèbre a des rayures pour se cacher. La grenouille, elle a des pattes arrière grandes pour sauter loin. Or, c'est pas vrai. C'est juste que ça a paru par hasard. Et que comme c'était un avantage évolutif, ça s'est répandu. Et même souvent, ce qui est encore plus dangereux, c'est que derrière, il y a même des questionnaires pour voir si le gamin a bien retenu la leçon, dans lequel il est demandé pourquoi. Pourquoi le zèbre a des rayures? Le zèbre, la vraie réponse, c'est le zèbre, il a des rayures par hasard. C'est quelque chose qu'on retrouve... cette idée d'une volonté, d'un sens... C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les débats intra-humains, par exemple dans les débats sur toutes les sexualités non reproductives, qui peuvent être présentées comme contre-nature. Donc on voit bien, les discours homophobes qu'il y a pu y avoir dans la manif pour tous. Mais ce à quoi, des fois, y compris le camp... anti-homophobe, va dire, et alors ils font bien ce qu'ils veulent, donc ils font pas de mal, mais sans nier que bon, il y a un détournement, mais on fait bien comme on veut. Alors qu'en fait, la sexualité n'est pas faite pour se reproduire, c'est une de ses fonctions, apparue par hasard, qui s'est maintenue parce qu'en tant qu'avantage évolutif, mais le poumon n'est pas fait pour respirer, le poumon est apparu par hasard, il permet de respirer, simplement ceux qui au cours de leur évolution n'ont pas développé de poumon, soit ils ont fait autrement, soit s'ils n'avaient pas du tout de système respiratoire, les formes de vie ont pas perduré. Voilà. Alors, cette idée que la nature n'a pas de plan, elle est... que la nature aurait un plan, on la retrouve de façon, à mon avis, un peu tendancieuse et déguisée, dans l'idée que la nature est bien faite. On a vu que l'évolution, ça a résulté énormément de massacres permanents, et donc ça paraît un peu difficile de trouver ça super, en fait. Mais je pense qu'on a gardé un inconscient déiste, en fait, où... On doit adorer l'ordre de Dieu, les chemins du Seigneur. Enfin, c'est un massacre permanent, on peut trouver ça complètement dégueulasse. Et par exemple, au rayon, quand je suis allé chercher Darwin, l'origine des espèces à la bibliothèque, les livres qui l'entouraient, c'était des trucs comme les merveilles de la nature, les chefs-d'œuvre de la nature, ce genre de choses. Et on n'était pas au rayon bref de comptoir, on était au rayon biologie, sciences naturelles. Donc cette idée donc, de trouver la nature bien faite, d'une certaine manière, je trouve que c'est une façon un peu pervertie de trouver un plan à la nature. Un autre exemple de ça, là on traite un peu du traitement un peu médiatique du darwinisme et de son détournement pour des motifs idéologiques. On a par exemple Jean-Claude Amezen, donc qui est plutôt un chercheur reconnu, qui est président du Conseil national d'éthique scientifique, et qui tenait une émission sur France Inter qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Et à chaque fois, il commence son introduction. Alors déjà, il a une voix comme s'il allait nous raconter une légende. Et c'est « Sur les épaules de Darwin, juchés sur les épaules des géants et voir plus loin, virgule ». Et derrière la virgule, à chaque fois, il change un peu son introduction. Et deux exemples de ce qu'il a déjà pu dire, par exemple, « Chercher les harmonies derrière le chaos apparent », alors que je pense qu'une théorie, enfin, une vision sérieuse de la théorie de l'évolution, ça serait arrêter de vouloir voir des harmonies partout, il n'y a que du chaos. Et lui, il dit « Chercher les harmonies derrière le chaos apparent ». Et une autre fois, il a dit « Comprendre ce passé qui donne du sens au présent ». Alors là, si comprendre ce passé qui donne du sens au présent, ça veut dire si le dauphin il a des poumons, c'est parce que ses ancêtres étaient terrestres. Oui, bon. Mais l'expression « donner du sens », elle prend très rapidement une dimension un peu mystique et rationnelle. Une autre variation autour de cette idée que la nature aurait un plan ou que la nature est bien faite, c'est l'idée de progrès au sein de l'évolution. Parce qu'il n'y a pas de progrès, il y a une adaptation. Par exemple, en période glaciaire, les individus qui auront développé une épaisse fourrure blanche, ça sera un avantage, et hop, changement climatique, et ça sera les premiers à être éliminés. On a l'exemple concret, par exemple, des phalènes du bouleau. Donc les phalènes qui sont des espèces de petits papillons aux ailes blanches, et parmi lesquels un individu de temps en temps était noir. Comme ils vivent sur les bouleaux, de loin, c'était à peu près, on avait à peu près autant de chances de survivre si on était blanc ou si on était noir, puisque ça faisait un gros tas blanc avec quelques petits points noirs, ce qui ressemble à la couleur des bouleaux. Mais simplement, dans les villes, avec le développement de l'industrie au XIXe siècle, les arbres ont été couverts de suie, et tous les individus blancs ont été repérés et mangés. Et maintenant, les phalènes qui vivent dans les villes industrielles, ça a surtout été observé en Angleterre, maintenant les phalènes sont noires, alors qu'il n'y a pas très longtemps, elles étaient à majorité blanches. Est-ce qu'on préfère des phalènes blanches ou des phalènes noires? Enfin, personnellement, je n'ai pas d'avis, on ne peut pas dire qu'il y a eu un progrès, il y a eu une différence, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous préférez les mammouths ou les éléphants, mais personnellement, je n'ai pas d'avis. Voilà. Cette idée d'un progrès, on la retrouve surtout quand on parle de l'homme. Un peu, on a l'idée que l'homme serait au sommet de l'évolution. Par exemple, dans deux films, donc un qui s'appelle L'Odyssée de l'espèce, donc qui est un téléfilm de 93 de Jacques Malater et qui est vraiment un gros navet, on aura pas mal l'occasion d'en parler. Et un autre qui s'appelle Sélection naturelle, le mystère des mystères, donc c'est un film qui n'est pas signé, il a dû être fait par une équipe, et il tournait en fait dans les planétariums, en fait c'est un film à caractère scientifique. Et dans les deux cas, donc on présente l'évolution, Et au moment où apparaît l'homme, ou apparaît un préhumain, ou quoi que ce soit, derrière, il y a une musique épique qui arrive. Donc une musique épique, c'est ce qui vient des épopées. Et dans le cinéma moderne, par exemple, c'est la musique qu'on met quand Superman il rattrape un avion qui allait s'écraser, il le pose tout doucement. Derrière, on nous met une musique qui nous fait comprendre que ce qui est en train de se passer là, c'est pas ordinaire. C'est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel. Et donc, dans l'Odyssée de l'espèce, comme dans Sélection naturelle, le mystère des mystères, le moment où apparaît l'homme est accompagné d'une musique épique. Attention, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant dans l'Odyssée de l'espèce, par exemple, c'est qu'ils nous... Ils disent plus... Enfin, ils insistent, en même temps, c'est un film qui insiste particulièrement sur l'apparition de l'espèce humaine. Et on a ce genre de phrase un peu débile, comme... Ça y est, il est bipède, il n'est plus un singe, il s'appelle Aurorine. Donc Aurorine, c'est le nom qu'on a donné 6 millions d'années plus tard au premier bipède dont on descend. Mais voilà, au moment où il s'est mis debout, c'était vraiment grandiose. Le premier préhumain arrive et il va changer la face du monde. Oui, enfin, ce qui n'est pas faux factuellement, mais... qui prend vite une dimension un peu tendancieuse. Et donc, toujours dans ce même film, l'Odyssée de l'espèce, à plusieurs reprises, ils disent c'est le premier d'entre nous. Mais du coup, il y a plusieurs premiers d'entre nous. C'est quoi le premier d'entre nous? Si on parle du premier être vivant, c'était il y a 13,8 millions d'années. Si on parle du premier sentient, alors David ce matin disait à peu près 1 milliard, moi j'avais plutôt entendu les chiffres de 700, 800 millions, enfin en tout cas pour le premier être sentient. Ensuite, si c'est le premier primate, alors le premier primate, ça c'est le Purgatorius, donc c'est le premier primate connu, c'est l'ancêtre qu'on partage avec, enfin le plus lointain ancêtre connu qu'on partage avec le chimpanzé, les autres primates. Il n'était pas bien grand. Voilà, voilà. Après, si on parle du... C'est quoi? C'est le premier d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Si c'est le premier amateur de jazz, ça fait moins d'un siècle. Et pourtant, y a une obsession dans la recherche, l'obsession de trouver le premier homme. L'obsession de trouver le premier homme, c'est un thème qui est récurrent dans la paléontologie. Alors, sur quels critères? Déjà, il y a un critère super important, c'est qu'il faut que ça soit un ancêtre qu'on ne partage pas avec d'autres. On ne peut pas qualifier de premier homme un ancêtre qui serait aussi l'ancêtre du chimpanzé. Il faut que ça soit spécifique, sinon ça ne marche pas. Il y a des critères d'ordre biologique. Du coup, ce qui peuvent être la bipédie, la taille du crâne, l'articulation. Et comme on a vu, l'évolution, enfin, ça change tout le temps. Il y a pas... Ou alors des critères culturels. L'outil, l'apparition du feu, l'art, le fait d'enterrer ses morts, ce genre de choses. Il y a une obsession des paléontologues autour de ce concept. Et notamment... le plus grand d'entre eux, qui vaut bien Dominique Lestel. On a donc Pascal Pic. Pascal Pic, qui est professeur de paléoanthropologie au Collège de France. Donc c'est pour un universitaire, c'est ce qu'on peut faire de plus haut, à part avoir la chaire elle-même. Donc il est considéré comme le plus grand intellectuel sur la question de l'origine de l'homme et de ce que c'était que le premier être humain. Et lui, en fait, il considère justement que le fil rouge de sa carrière, son truc de pensée, c'était de chercher le propre de l'homme, et de l'humain, pardon, parce que lui, il distingue bien l'homme qui n'est qu'une espèce animale et l'humain qui est un concept philosophique. L'humain est donc humain du fait de se penser humain. Considéré comme un PICQ. Donc voilà, quelqu'un qui est reconnu comme un des plus grands cerveaux de notre temps, et qui a consacré toute sa vie, en tout cas toute sa carrière, à essayer de trouver une base théorique au spécisme. On ne peut pas appeler les choses autrement. et du spécisme humaniste. Donc cette idée de l'homme comme étant le sommet de l'évolution, on la retrouve souvent dans ce genre de dessin que vous connaissez tous, où on voit... ça va pas être possible avec un micro.
Donc on voit un ancêtre de l'humain et qui devient, qui se redresse, qui perd ses poils et qui se tient droit. On a bien tout en haut de l'évolution, au sommet, un individu fier qui se tient droit. Il faut remarquer que très généralement, c'est un humain mâle, blanc, avec un corps plutôt athlétique. Voilà, et ici avec une arme. Du coup, cette image a été souvent détournée. Donc, les deux exemples que j'ai sont justement des exemples un peu détournés. Ici, on peut remarquer qu'ils ont mis comme ancêtre un chimpanzé, alors qu'on n'avait jamais eu de chimpanzé parmi nos ancêtres, mais qui est utilisé dans des caricatures de type politique pour défendre des causes en plus qui, là, ne sont pas forcément modestes. Mais ici, donc, nous avons l'homme qui évolue, qui devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus beau, de plus en plus fier. Et au moment où il a un marteau-piqueur, il commence à fléchir, et ensuite il est complètement abattu devant son ordinateur. Ce qui signifie que la société industrielle et la société numérique seraient un recul dans l'évolution, une dégénérescence. Je peux tout à fait comprendre je suis même plutôt d'accord avec l'idée que c'était un mauvais choix de créer la société industrielle, mais pourquoi parler d'évolution? On avait l'homme qui se développait dans toute sa grandeur, et puis voilà, une dégénérescence. Et là, sous le même motif, nous avons l'homme qui, après avoir été beau et fort, va au McDonald's et le bien gros, et la prochaine étape sera un cochon.
Elle est grosse et sale.
Donc on voit bien cette représentation de l'homme comme étant tout en haut de la hiérarchie, comme un sommet de l'évolution. Ici, un arbre généalogique des différents types d'humains, où on voit que c'est beaucoup plus le bordel que ça. Il y a eu plein de formes d'humains différents qui ont existé. Parmi eux, certains d'eux ont survécu. Et du coup, cette petite caricature-là, qui, par rapport à une vision très linéaire, où on voit d'un animal à un humain beau et fort, il y a aussi, donc du coup, en réaction à ça, à mon avis, cette représentation-là, où on voit vers le haut, ce sont plutôt des formes anciennes, vers le bas, plutôt des formes récentes, mais là où le choix a été fait de montrer des individus féminins, et puis surtout... On voit enfin, différents stades, c'est le bordel, et ça correspond, à mon avis, beaucoup plus à la réalité. Alors, quelle heure est-il ? Bon, c'est bon, on a encore un peu de temps. Je cherchais mon atelier, mais je vais le retrouver. Alors, sur cette idée donc d'une place à part pour l'homme qui serait le sommet de l'évolution, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte et à l'échelle des choses dont on parle. Bon, donc là, ici, j'ai mis une chronologie indicative avec l'indicative en souligné. pour bien dire que comme la vie est en fait en changement permanent, ça a beaucoup de choses, enfin ça n'a pas vraiment de sens de donner une date précise, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier, ça, c'est une évolution toujours transitoire. Marc Giraud là-dedans, qui nous dit... Oui, l'état n'est qu'un état génétique provisoire de l'évolution. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher pour retrouver une phrase aussi courte. Donc, il y a 13,7 milliards d'années, le Big Bang. 4,6 milliards d'années, la formation du Soleil et de la Terre. 3,8 milliards d'années, les premiers organismes vivants, mais on parle d'organismes monocellulaires, puis pluricellulaires, mais très 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 simple. Et donc, il y a 540 millions d'années, ce qu'on appelle le boom de l'évolution, c'est-à-dire que d'un moment, ça s'est accéléré, on est arrivé sur des formes de vie plus complexes. C'est pas pour autant que c'est là qu'est apparue la sentience, c'était arrivé quelques millions d'années avant, mais on restait sur des individus très simples, de l'ordre des acariens aujourd'hui, ce genre de choses. Et donc, à partir d'il y a 540 millions d'années, ça s'accélère. Il y a 500 millions d'années à peu près les premiers poissons, 300 millions d'années les premiers mammifères et reptiles, 130 millions d'années les premiers oiseaux. Là, j'ai indiqué que l'Homo sapiens, on sait que le premier... Enfin, définir clairement ce qu'est le premier humain, ça n'a pas vraiment de sens. Selon ce qu'on prend, ça peut être il y a 6 millions d'années, si on considère que c'est qu'un bipède dont on partagera, qui n'aurait donné que nous comme descendance, ça pourrait marcher. Après, ça dépend des critères qu'on prend. Or, bon, il y a 200 000 ans à peu près, l'apparition de l'Homo sapiens, donc l'homme sous sa forme moderne. Il faut savoir que potentiellement, donc on est hier à l'échelle de l'évolution. Donc si on peut constater que l'homme a de fait une place particulière par l'impact qu'il a sur les choses, c'est un état de fait aujourd'hui, mais c'est un événement qui s'est fait très rapidement. Et la Terre est encore potentiellement habitable, dans le meilleur des cas, on envisage pour 5 milliards d'années. Donc pourquoi 5 milliards d'années? Parce que le Soleil, c'est... Enfin, fonctionne par une réaction qui transforme de l'hydrogène en hélium. Il devient toujours de plus en plus chaud. Pour l'instant, en astronomie, c'est ce qu'on appelle une naine orangée, qui va devenir une géante rouge. Donc il va faire beaucoup... Pour l'instant, on prend 7% de température en plus à la surface par milliard d'années, mais ça va s'accélérer. Et au bout d'un moment, dans 5 milliards d'années, en fait, il risque de faire tellement chaud qu'on ne peut plus concevoir qu'il y ait de l'eau liquide. C'est-à-dire que l'eau sera à l'état gazeux, et on peut pas, de ce qu'on connaît de la vie, on ne peut pas envisager comment il pourrait y avoir une vie sans eau liquide. Ça ne signifie pas que la Terre sera encore habitée par des êtres vivants pendant tout ce temps, mais c'est la limite maximum. Pourquoi la Terre ne serait pas... habiter aussi longtemps, on peut tout à fait concevoir, par exemple, une catastrophe humaine, l'homme qui a la capacité de détruire sa propre planète, ou simplement une collision astronomique. Suffit qu'on se prenne un... Voilà. Comment ?
Un météore.
Un météore, oui, si on veut. Donc, voilà. Donc, on est... Si réellement la Terre était habitée encore 5 milliards d'années, comme ça fait que 540 millions que ça bouge vraiment, même si avant il y avait des formes de vie, on peut considérer qu'on est peut-être, je dis bien peut-être, on est dans l'ordre de 10% de l'histoire d'une vie organisée et complexe sur Terre, et que là-dedans, l'homme a occupé une place un peu particulière sur une période de temps qui est très très courte. Et du coup, alors là, on est tout à fait dans la science-fiction, mais rien ne permet d'envisager d'office que, par exemple, une autre forme de vie aussi intelligente, voire plus intelligente que la nôtre, pourrait voir le jour, qui seraient les descendants d'individus qui actuellement seraient éventuellement même peut-être des insectes ou des bactéries. Voilà. Certaines personnes qui ont réfléchi à ça disent que, a priori, ça ne serait pas trop possible, dans le sens où aujourd'hui, on serait dans l'ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Normalement, on est dans l'Holocène. Il y en a qui disent, à partir du milieu du 19e siècle, l'homme, il contrôle tellement son milieu qu'il ne va pas laisser un concurrent développer une civilisation, une intelligence en comparaison à lui. Un peu de la même façon, par exemple, que les mammifères n'ont pas pu vraiment se développer et, tant qu'il n'y avait pas eu l'extinction des dinosaures. Mais à ça, on peut répondre que... il faut avoir une sacrée foi en l'humanité et ses capacités d'adaptation pour envisager qu'on va vivre 5 milliards d'années au rythme où vont les choses. Et que même en dehors des erreurs humaines, il peut y avoir une catastrophe purement physique d'ordre astronomique. Donc on a eu... Les risques astronomiques en fait, sont évalués sur ce qu'on appelle l'échelle de Turin, qui évalue les risques de 1 à 10, et on nous dit... oui, mais rassurez-vous, une catastrophe de niveau 10, ça arrive moins d'une fois toutes les 100 000 ans. Vous n'avez vraiment pas de chance si vous voyez ça de votre vivant. Oui, à l'échelle de notre vie, c'est vrai, mais il va y en avoir, un jour ou l'autre. Sans compter que parmi ces risques potentiels astronomiques, il y en a qu'on pourrait qualifier de 10+, ou de hors catégorie. Par exemple, comme celui qui s'est passé il y a 66 millions d'années, l'extinction du Crétacé tertiaire, qu'on connaît plus en disant la disparition des dinosaures. Ça n'a pas été la disparition des dinosaures, en fait, ça a été un seul météorite qui ne faisait même pas 10 km de diamètre, la Terre, elle en fait presque 13 000, qui a percuté la Terre. Et ça a eu un tel impact sur les écosystèmes que ça a tué 70% des espèces et plus de 90% des individus sur Terre comme sur mer. C'est-à-dire que une fois que les conséquences étaient passées, la Terre, il y avait 10 fois moins d'êtres vivants sur Terre qu'il y en avait avant. Il faut avoir une sacrée foi dans l'humanité, le progrès et la technologie pour croire que, mais oui, on arriverait bien à se débrouiller, on est quand même intelligent. Voilà. Et il y en a eu d'autres encore antérieurement qui ont été encore plus violentes, des extinctions. Donc voilà, donc, l'idée de trouver... Donc du coup, on voit quand même que si la place des individus dans l'évolution ne dit absolument rien... sur leur statut moral individuel. En revanche, on en a une représentation qui est pleine de sous-entendus et de présupposés souvent erronés, puisque tout... On peut élargir un peu en disant il faut avoir conscience qu'on est issu de l'évolution. Nous, c'est nous tous, que ce soit les fraises, les sardines ou les humains, et qu'il faut avoir conscience, que souvent on n'en tire pas les conséquences. Par exemple, l'idée que la pensée, ça a paru, la pensée elle-même, elle est issue de l'évolution. Des formes de pensée d'abord simples, puis plus complexes, par le développement du cerveau comme organe penseur, et que c'est juste un organe qui est capable d'analyser des situations pour prendre une décision, faire une chose. Du coup, modifier le cerveau, c'est modifier la pensée, comme on le voit quand les gens sont malades, prennent des psychotropes ou le vieillissement naturel, au moins le cerveau ne fonctionne pas pareil. Et pourtant, même si souvent on le sait intellectuellement, je pense qu'on a encore cette représentation dont on parlait tout à l'heure, platonicienne, un peu du corps qui habite, de l'âme qui habite le corps, qui est, à mon avis, laïcisée dans l'idée du libre arbitre. quand il apparaît comme une notion sacralisée par les humanistes, on retrouve l'idée de l'homme à l'image de Dieu, des chrétiens, c'est-à-dire capable d'agir de l'extérieur sur le monde, alors que la pensée, elle est issue de notre cerveau, qui est lui-même issu de l'évolution, qu'on est déterminé par ces cadres-là. Ça n'empêche pas qu'il y ait des idées qui soient justes, des idées qui soient fausses, mais objectivement, qu'on puisse chercher ce qu'est le bon choix, ce qu'est la vérité. Mais on n'agit pas sur le monde, le corps, on n'agit pas sur le monde de l'extérieur, étant nous-mêmes soumis à l'évolution et aux connexions neuronales qui se font dans notre cerveau. Ça n'a aucune conséquence pratique, mais en termes de représentation, je pense que ça en dit beaucoup, notamment quand, avec des mythes comme l'âne de Buridan ou l'animal-machine de Descartes, où on dit « Ah oui, mais eux, ils font juste des choix en fonction de primaire, en fonction de motivation. » En fait, nous aussi, notre cerveau, il calcule le meilleur choix en fonction de ce qu'on a mis comme motivation. Enfin, le libre-arbitre, c'est pas quelque chose qui a de l'extérieur. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre dans ce que je voulais dire. Et donc, si tout est issu de l'évolution, on pourrait avoir tendance à vouloir en tirer des conclusions un peu simplistes. Les gens qui se sont revendiqués du darwinisme à certaines fins, c'était souvent n'importe quoi. Comme par exemple Herbert Spencer et compagnie, enfin, qu'on a appelé qui a créé avec d'autres le terme de darwinisme social. En fait, il justifiait le libéralisme le plus cru en disant que c'est bien, ça allait éliminer les faibles et puis il allait rester les meilleurs. Alors que par rapport à ce qu'on a vu, que c'est pas les meilleurs qui restent, c'est ceux qui ont survécu par hasard. Dans un certain cadre. De même, les survivalistes qui vivent avec un abri nucléaire au fond de leur jardin et 50 armes à feu, ils sont persuadés qu'ils sont les plus aptes à survivre. Ils citent souvent Darwin, mais en fait, on voit bien que ça a absolument rien à voir. En revanche, comment je vais revenir là-dessus? J'avais oublié un truc. Oui, puisque par exemple le spencerisme se base sur l'idée que l'évolution, que la concurrence, Dominique Lestel nous faisait un peu la même chose. Il disait plus il y a de carnage, plus la sélection va fonctionner, plus ça va être les meilleurs qui restent. On a bien vu qu'il n'y avait absolument rien de ça chez Darwin. Il ne fait absolument pas l'apologie de l'élimination des faibles. Il constate un état de fait en tant que scientifique. Et il y a même un moment où il porte un jugement, parce que Darwin c'est quelqu'un qui a perdu plusieurs enfants en bas âge, et notamment et aussi une petite fille, Annie, qui est morte quand elle avait 10 ans. Et au moment de la mort de sa fille, Darwin, qui a bien conscience qu'elle est morte par les mêmes mécanismes que la sélection naturelle, tout ça, et en substance, il dit que les lois de la nature sont vraiment dégueulasses. Et il porte un certain jugement dessus en disant que le monde aurait été plus beau si sa petite fille avait survécu. Donc Darwin, il n'est pas du tout dans à dire c'est bien qu'il y ait de la concurrence partout, ça tire le meilleur des individus, ça crée des races supérieures. Il a jamais dit ça. Donc, dans cette idée que il y a plein de choses que j'avais à vous montrer en cours que j'avais oublié, mais tant pis, du coup ça sera un peu décalé. Tout à l'heure, donc quand on avait vu qu'on avait une origine commune, qu'on partageait certains liens de parenté avec le chimpanzé et d'autres plus lointains avec la sardine et d'autres encore plus lointains avec le fougère. On avait dit que ça voulait absolument rien dire sur le statut moral de chaque individu. Ici, dans la vie à petits pas, pourtant, on a des gens qui pensent que ça a une conséquence, puisqu'ils disent que la découverte de la théorie des espèces est loin de plaire aux partisans d'une idéologie raciste. Si nous avons tous le même ancêtre, cela prouve qu'il n'existe pas de hiérarchie des races. Donc c'est assez amusant, parce qu'à la fois, on peut construire une théorie raciste sur autre chose que l'idée d'une origine commune, mais surtout que si le fait d'avoir un ancêtre, ça interdit de faire des hiérarchies et des discriminations, il devrait plutôt dire qu'il n'y a pas, de discrimination possible entre les espèces. Mais bon. Alors, la vie à petits pas, justement. Donc, on a envie de vous parler sur une représentation assez tendancieuse et erronée du darwinisme, composée de trois parties. Une première partie, une planète pour la vie, donc dans laquelle on voit la formation de la Terre, les dinosaures. La deuxième, des premiers mammifères à l'espèce humaine. Donc on voit comment on passe des premiers mammifères, du Purgatorius que je vous ai montré, jusqu'à l'être humain. Et enfin, la vie, une grande aventure. Et la vie, une grande. Alors que les deux premières parties étaient assez sérieuses, la troisième est un ramassis de conneries, mais qui trouve une légitimité, en fait, par. Il est présenté dans la suite de. Voici l'apparition de la vie sur Terre, voici l'apparition de l'homme, et là, mais ta vie à toi aussi, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Tu fais partie de la vie. Alors, tu fais partie de la vie. En tant que tel, je trouvais ça pas idiot de montrer. Aux adolescents, enfin de leur expliquer qu'eux aussi participaient à ça. Ce problème, c'est qu'ils en tirent. Comme conclusion, par exemple, là, on a une page sur la nutrition. Le lait, les yaourts et le fromage contiennent du calcium. À ton âge, tu dois en consommer beaucoup. Les viandes, les poissons et les œufs apportent des protéines. Ce sont les constituants essentiels des cellules. Elles sont indispensables à la croissance et elles maintiennent en bonne santé. Il s'est présenté dans la suite de l'évolution. Tout à l'heure aussi, quand on disait que Darwin, à un moment, avait traité les animaux, enfin, avait traité les lois de la nature un peu de difficile à la période de la mort d'Annie, eux, ils disent le contraire. Si aucun animal, aucune plante ou aucun être humain ne mourrait, ce serait la catastrophe. On se marcherait tous sur les pieds et l'équilibre naturel serait mis en péril. La mort, c'est ce qui permet l'évolution des uns et des autres. Grâce à elle, il y a l'apparition de nouvelles particularités à chaque génération. Alors là aussi, un choix. On pourrait penser que c'est si on était à peu près tous les mêmes à vivre 1000 ans sans évoluer. Enfin, il y a un choix subjectif qui est posé sur les choses. Et puis là, mon préféré, ils expliquent, avec le couvert scientifique de ta vie aussi, elle fait partie de l'évolution. À l'adolescence, il n'y a pas que le corps qui évolue. Dans la tête aussi, ça bouge, et même beaucoup. On a envie d'être plus libre, de s'habiller comme on veut. On commence à s'intéresser aux filles quand on est un garçon, et aux garçons quand on est une fille. Les parents ennuient, on passe des heures avec ses amis. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Bon, on a tous relevé le passage hétéronormatif, mais même au-delà de ça, il y a des adolescents qui n'ont pas... Il y a des adolescents qui n'ont pas d'amis, il y a des adolescents qui n'ont pas les moyens de choisir comment ils s'habillent. Donc on est sur un truc très normatif et qui tire sa conclusion de « mais toi aussi tu viens de l'évolution, tout ce qu'on t'a expliqué là, c'est valable pour toi aussi ». Voilà. Enfin... oui, l'idée que tout s'inscrit dans l'évolution... Ça a aussi été défendu par Anton Pankouk dans Darwinisme et marxisme, dans lequel simplement il rappelle que bon, le sociétal prolonge le biologique sans rupture, Et il fait en fait une espèce de triptyque, lui qui est astronome et marxiste, il lui manquait le darwinisme du coup, il fait un peu une espèce de triptyque dans lequel il y a l'astronomie qui explique la structure de l'univers, le darwinisme qui explique la vie sur Terre, et le marxisme qui explique rationnellement le fonctionnement des sociétés humaines. Donc, du coup, ça lui semblait important de resituer les sociétés humaines dans le cadre de l'évolution. Voilà. Y avait encore pas mal de choses à dire, mais je vais un peu tout embrouiller mon plan, donc peut-être qu'on gardera ça pour le débat.